Dame sagesse, racheter. Voici une liste de citations d'une personnalité bien connue. Pouvez-vous l'identifier? Assieds-toi bien, tu t'affaisses. C'est mauvais pour ton dos. Ne lis pas dans le noir. Tu conduis trop vite. Tiens, prends ton impair, il va pleuvoir. Travaille ton piano pendant 1 heure, après tu pourras sortir. Ne mange pas ce Mars juste avant midi, tu vas te couper l'appétit. Termine tes devoirs. Ne parle pas à la bouche pleine. Ne reste pas devant le frigo ouvert. Décide-toi avant de l'ouvrir et prends ce que tu veux. Tu ne peux pas porter ça, c'est limite vulgaire. Tu es trop maquillée. Ne dis pas « je ne peux pas ». Quand on veut, on peut. Souviens-toi, la beauté sans vertu est une fleur sans odeur. Si tu ne te dépêches pas, tu vas être en retard. Ne dis pas « si j'aurais voulu », mais « si j'avais voulu ». Qui est cette personne? Vous avez déjà deviné. C'est maman. Ces citations me font certainement penser à la mienne, et elles vous font probablement penser à la vôtre. J'ai donné cette conférence plus d'une fois, et à chaque fois, l'auditoire avait la même opinion. C'est notre mère. Je leur demande à chaque fois, vous êtes sûr que ce n'est pas votre père? Et tout le monde secoue la tête. Non, ce n'est pas papa, c'est maman. Pourquoi en sommes-nous si sûrs? Si vous regardez bien cette liste de citations, vous verrez que c'est une suite d'ordres et d'encouragements sur les détails de la vie, la manière de s'asseoir, de parler, de manger, d'aller, de venir, et même de regarder dans le réfrigérateur. Ces ordres et ces encouragements sont parsemés de proverbes tels que « quand on veut, on peut » ou « la beauté sans vertu est une fleur sans odeur ». Chaque mère devrait être la première dame sagesse pour ses jeunes enfants. Comme le livre des proverbes, la mère constitue un catalogue de dictons sages qui nous disent ce que nous devons faire dans tous les domaines fondamentaux, y compris ceux de l'argent, de l'amitié, des ennemis, de la parole, de l'alimentation, de la sexualité, des bonnes manières, etc. Il n'existe pas de verset disant que les femmes devraient être comme la sagesse. Mais ce sont la structure même et les parallèles du livre des Proverbes qui présentent la femme vertueuse comme une incarnation de la sagesse féminine. Réfléchissez à ces parallèles. Proverbe 9, verset 1 dit « La sagesse a bâti sa maison. » Le passage continue et décrit la façon dont elle offre un banquet somptueux dans sa maison. Elle invite les gens à venir. 5 chapitres plus tard, Proverbe 14, verset 1 nous dit « La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. » Proverbe 3, verset 15 dit « Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Proverbe 8, verset 11 dit la même chose « Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Job 28, verset 12 pose la question « Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? » Et Job 28, verset 18 dit « La sagesse vaut plus que les perles. » Perle est le même mot qui a été traduit ailleurs par pierre précieuse. C'est dans ces contextes-là que nous devrions lire Proverbe 31, verset 10, qui nous est familier. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Proverbe 9, verset 10 dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » On peut lire en Proverbe 31, verset 30 « La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Les parallèles entre la femme sage et la sagesse sont puissants et délibérés. Les deux sont productives de la même manière. Elles bâtissent leur maison. Les deux ont une grande valeur. Elles sont plus précieuses que les perles. Les deux sont rares et difficiles à trouver. On doit les chercher avec diligence. Enfin, la sagesse et la femme sage ont toutes deux la même vertu fondamentale. Elles craignent l'Éternel. Le livre des Proverbes, écrit à l'origine pour enseigner la sagesse aux jeunes hommes, se répartit en trois grandes parties. Dans la première partie, le prologue, au chapitre 1 à 9, le père présente la sagesse et la folie personnifiées en femme. Il supplie son fils de rechercher la sagesse et de fuir la folie. La deuxième partie, chapitre 10 à 30, contient la collection de proverbes proprement dits, des dictons vigoureux et sages, généralement sous forme de strophes, nous donnant des maximes morales sur la manière de vivre. Le livre se termine avec l'épilogue, le chapitre 31, qui présente les paroles et le ministère d'une mère sage, spécifique, et un portrait de l'épouse sage. La femme sage est délibérément présentée comme une personnification de la sagesse féminine archétypale au début du livre. L'épilogue fait écho et répond à ce prologue. Il décrit des femmes sages spécifiques, une mère et une épouse. On devrait tenir compte et attacher de la valeur à ces femmes sages spécifiques du proverbe 31, comme on devrait tenir compte et attacher de la valeur à la sagesse métaphorique des chapitres 1 à 9. Les jeunes hommes trouveront la sagesse archétypale en faisant attention à ces personnifications humaines, en les recherchant et en les chérissant. Même en tant que roi, Lemuel s'est souvenu de la sagesse morale que sa mère lui a enseignée quand il était petit. Les hommes devraient rechercher et honorer des femmes sages. Et en tant que femmes, nous devrions prendre ces femmes sages comme nos modèles. Nous devrions donner à nos enfants une sagesse solide et être des joyaux pour nos maris, entièrement dignes de leur confiance et de leur appréciation. La crainte de l'Éternel est la vertu fondamentale de l'aspect d'âme sagesse, comme l'amour est la vertu fondamentale de la dispensatrice de vie. La crainte de l'Éternel est un respect révérentiel pour Dieu et pour ses exigences, basé sur la connaissance consciente que Dieu est Dieu. Qu'est-ce que la connaissance consciente? Tout le monde sait que Dieu est Dieu, mais beaucoup choisissent de réprimer cette connaissance, de la rejeter, de s'en détourner. Ils ne veulent pas vivre dans la lumière de la présence de Dieu, comme on voit en Romains 1, verset 18. Mais la personne qui craint l'Éternel choisit de garder la connaissance de Dieu devant elle. C'est en partie ce qu'est la crainte de l'Éternel. Ceux qui ne craignent pas le Seigneur répriment cette vérité. Les passages relatifs à la crainte de Dieu s'organisent joliment autour des mots commençant par R, révérence, retenue, refuge, réjouissance et récompense. Le premier mot en R, révérence, est dans la définition elle-même. La crainte de l'Éternel inclut un respect révérentiel pour Dieu et ses normes. Nous ne pouvons pas séparer Dieu, en tant que personne, de ses normes vertueuses. À plusieurs reprises, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est la haine du mal. Le mal est ce qui est contraire à Dieu et à ses normes. Si vous aimez et craignez vraiment le Seigneur, vous allez respecter ses normes, sa justice. Par conséquent, vous allez haïr le mal. La révérence envers Dieu nous conduit à la retenue. Un homme a dit à un de mes amis dernièrement « Je ne couche pas avec les femmes parce que je crains Dieu. » C'est une merveilleuse raison pour se garder pur. C'est probablement la meilleure. Le jeune homme sait que Dieu et ses lois existent. Même s'il a des pulsions sexuelles et le désir de coucher avec des femmes, il conserve une connaissance consciente de Dieu et de ses normes. Il sait que Dieu juge les pécheurs. Alors il exerce la retenue. C'est un bon exemple de la crainte de l'Éternel. Néhémie fournit un autre bon exemple de retenue. Quelques fonctionnaires de la nation oppriment le peuple et le surchargent de taxes. En Néhémie 5, verset 15, nous lisons « Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. » Le livre de Jonas fournit un autre exemple intéressant. Jonas dit aux marins « Si vous voulez que cette tempête s'arrête, il faut me jeter par-dessus bord. » Mais les marins ne veulent pas prendre part à la noyade de Jonas parce qu'ils craignent Dieu. Ils ne veulent pas tuer quelqu'un. De manière ironique, ils craignent Dieu plus que Jonas ne le craint, ce qui arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Certains incroyants craignent Dieu même plus que les croyants, qui font étalage de leur désobéissance. La crainte de l'Éternel retient les gens de faire du mal, des choses immorales et malhonnêtes. La crainte de l'Éternel s'est grandement érodée en Occident. Nous le savons parce que nous avons de moins en moins de retenue au niveau moral et éthique. Lorsque nous craignons l'Éternel, il devient notre refuge parce que cette crainte est la seule qui chasse toutes les autres. La crainte de l'Éternel triomphe sur toutes les autres. Voici comment cela fonctionne. Lorsque nous nous fixons sur la grandeur et la puissance incroyable de Dieu, toutes les autres puissances et forces sont réduites à l'insignifiance, même si ces dernières peuvent être grandes d'un point de vue humain. Par exemple, les sages-femmes Chifra et Pua, en Exode, ne tuent pas les bébés mâles parce qu'elles craignent l'Éternel. Pharaon est la grande puissance. Il a le pouvoir de vie et de mort. Mais leur crainte de Dieu était plus grande que leur crainte de Pharaon. De la même manière, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas peur de la fournaise ardente. Ils préfèrent aller dans la fournaise ardente plutôt que d'adorer des idoles. Jésus énonce clairement cette vérité quand il déclare « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Souvenons-nous que ces paroles ont été prononcées par un homme qui savait qu'il allait être torturé à mort. Ceux qui craignent l'Éternel deviennent braves, parce que Dieu est leur refuge. Non seulement sa grandeur rend les craintes de cette vie insignifiantes, mais le Seigneur est en réalité un refuge pour ceux qui le craignent.
Boaz a dit
qui est venu dans un pays inconnu où les Moabites n'étaient pas appréciés. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Proverbe 18, verset 10 dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » J'ai été ravie d'entendre une fois une interview à la télévision du couple de patineurs canadiens, Lloyd Eisler et Isabelle Brasseur. Lloyd a parcouru tout le Canada pour trouver une partenaire. Il mesure bien plus de 1m80 et il est très fort, mais il a finalement choisi la petite Isabelle Brasseur de 1m50. Le journaliste a demandé à Isabelle de décrire l'épreuve de sélection. Elle a de grands yeux et est très rigolote. Elle a expliqué « Oh, il était si grand, je ne voulais même pas entrer sur la glace avec lui. J'avais une peur bleue qu'il me lance au plafond. » Puis, après une pause, elle a continué. « Mais ensuite, j'ai appris que grâce à sa force, il me sauve et me protège, et maintenant, je lui fais entièrement confiance. » Lorsque nous contemplons Dieu, nous devrions toujours être impressionnés par sa grandeur et sa puissance. Et nous devrions éprouver de la crainte en nous demandant ce qui va nous arriver, avoir peur d'entrer sur la glace avec lui pour ainsi dire. Mais ensuite, nous nous rendons compte, quand nous découvrons son caractère, que sa grande puissance peut être et sera déployée en notre faveur. C'est ce qu'Isabelle a appris en patinant avec Lloyd. La personne qui est assez forte pour vous lancer en l'air et aussi la personne qui peut vous rattraper et vous empêcher de tomber. C'est une image de Dieu en tant que refuge. Nous sommes dans la crainte de Dieu, et pourtant nous finissons par apprendre que la puissance même que nous craignons avec raison est la source de notre protection quand nous lui faisons confiance et lorsque nous nous appuyons sur lui. Cela nous amène au quatrième R, la réjouissance. Malheureusement, beaucoup de gens associent la crainte de l'Éternel au fait de se blottir dans un coin. C'est vrai, plus les gens sont mauvais, plus ils connaissent la terreur lorsqu'ils sont confrontés à la grandeur de Dieu. Mais Dieu dit que la crainte qu'il désire se caractérise par un tremblement avec réjouissance. C'est en fait l'ordre qu'il donne au psaume 2. Ce psaume est écrit pour les rois, les dirigeants de la terre, et voici ce qu'il dit. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Le psaume 34 est un autre psaume merveilleux concernant la crainte de l'Éternel. Remarquez les thèmes de la réjouissance, du rayonnement et du refuge pour ceux qui font du vrai Dieu leur Dieu. Le verset 6 commence par ces mots. « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Enfin, ceux qui craignent l'Éternel s'attendent à lui pour leur récompense finale. Le psaume 19, au verset 10 à 12, dit « La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Le ton mélancolique du psaume 90 de Moïse est compréhensible si on considère sa vie avec les Juifs incrédules et leur existence maudite dans le désert. Voici ce qu'il écrit à la fin de son psaume, au verset 11. « Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Puis au verset 16, « Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. » La grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. La crainte de l'Éternel produit le désir de faire un travail excellent et l'espoir d'une récompense de la part de Dieu. Ainsi, Proverbe 31, au verset 30 à 31, dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'opporte ses œuvres la loue. » La crainte de l'Éternel ne nous retient pas seulement du mal. Elle nous motive à produire l'excellence. Le respect pour les normes de Dieu ne nous empêche pas seulement de faire de mauvaises choses. Il nous conduit à produire l'excellence parce que nous avons du respect pour les normes de Dieu. Quand nous produisons un travail de qualité, nous sommes libres de regarder à Dieu pour une véritable récompense. Résumé, la crainte de l'Éternel. La vertu fondamentale et la motivation de la femme sage sont la crainte de l'Éternel. Celles qui craignent l'Éternel, le respectent, se retiennent de faire le mal, trouvent refuge en Dieu,
se réjouissent de la bonté de Dieu
pour leur récompense. Les Écritures donnent un nom à la femme qui personnifie la sagesse. Proverbe 31, verset 10, présente l'épouse sage comme étant la femme d'excellence. Le mot hébraïque est « shayil », qui se traduit de plusieurs manières. La version Louis II le traduit par « la femme vertueuse ». D'autres versions de la Bible traduisent par « la femme de noble caractère ». J'aime la traduction « la femme excellente » et préfère « la femme d'excellence ». Ce mot signifie force de caractère, vertu, noblesse et profondeur de caractère. L'aspect dispensatrice de vie peut être représenté comme une fontaine ou un puits profond où une eau pure et cristalline s'écoule de l'amour de Dieu. L'aspect de la dame sagesse est un pilier de force, une colonne de roc édifiée sur la crainte de Dieu, enfoncée profondément et stable. C'est une bonne image de la femme shayil. La femme vertueuse est exactement le contraire de tout ce qui est volage, stupide, superficiel, peu profond ou naïf. C'est tout ce qui n'est pas la femme shayil. Au lieu de cela, elle se caractérise par la profondeur, la force, le courage, la noblesse, la discipline et la persévérance, le tout basé sur la crainte de Dieu. C'est vraiment une image merveilleuse. L'épouse idéale de Proverbe 31, Ruth, Esther et la femme sage d'Abel représentent toutes les sagesses dans ses rôles féminins. Chaque femme pieuse devrait chercher à représenter la sagesse. Chaque portrait de femme sera différent, comme ces quatre exemples différents l'illustrent. Bien que la vertu fondamentale soit la même, l'application est différente. La femme de Proverbe 31 représente l'épouse idéale. proposée aux jeunes hommes israélites de la classe aisée à l'époque du royaume d'Israël pour les aider à choisir une épouse avec sagesse. Même si cette description a été faite pour une époque et un endroit particulier, les vertus du caractère de cette femme restent valables avec une clarté intemporelle. Elle a servi de directive au peuple de Dieu pendant des siècles. La femme de Proverbe 31 appartient à la classe aisée. Elle a des servantes et une grande maisonnée. Son mari fait partie de la classe dirigeante de la société. Elle est maîtresse d'elle-même, mais n'est pas centrée sur elle-même. Sa dignité et sa force sont axées sur le service aux autres. Je ne parle pas très souvent de ce passage pour deux raisons. Premièrement, je pense qu'on l'a trop mis en avant avec l'exclusion de tout ce que le reste de la Bible dit sur la féminité. Deuxièmement, cette femme a tellement de force de caractère et de diligence que cela peut souvent accabler les autres femmes au lieu de les encourager, surtout si on enseigne ce passage à l'exclusion du reste de la Bible. Que penser de sa force et de sa diligence ? Ma première impression est une fatigue constante. Je suis accablée par sa diligence et sa charge de travail. J'avais l'habitude de lire le verset 15, où elle se lève alors qu'il fait encore nuit, et le verset 18 sur sa lampe qui ne s'éteint point. Et j'en venais à la conclusion qu'elle ne dormait jamais. Je pensais, Seigneur, c'est incroyable! Qui peut tout le temps se lever tôt et se coucher tard? Il est certain que la plupart des gens ne le peuvent pas. Par la suite, j'ai lu un commentaire qui expliquait que la lampe ne s'éteignant pas signifie que sa maison connaissait la prospérité, et non pas qu'elle restait debout toute la nuit. Elle est d'une diligence infatigable et de multiples responsabilités. Elle règne sur toute sa maisonnée, les servantes, ses enfants, les repas, l'habillement. Elle aide son mari, fait des œuvres charitables et des affaires aussi. Mais remarquez qu'elle a un centre d'intérêt. Son centre d'intérêt est le textile. La première chose mentionnée, après sa bonté envers son mari, est qu'elle se procure de la laine et du lin, au verset 13. Puis, au verset 19, elle met la main à la quenouille. Elle manie le fuseau, tissant cette laine et ce lin. Puis, au verset 22, elle fait des couvertures, elle coud. Et au verset 24, elle fait des chemises et les vend. Se concentrer sur une compétence ou un domaine constitue la clé pour devenir les femmes sages que nous devons être. Certaines peuvent faire plus que d'autres, mais personne ne peut tout faire. Dans un certain sens, les maîtresses de maison doivent tout diriger, mais il est quand même possible et hautement souhaitable de choisir un domaine de spécialisation. Pour certaines, cela va être la préparation des repas ou même la déclaration d'impôts si vous avez une formation de comptable, le jardinage, la puériculture, l'enseignement, la décoration intérieure ou les soins médicaux. Si un jour vous devenez auto-entrepreneuse, votre entreprise germera naturellement de votre spécialité. Je ne sais pas si les commentaires actuels sur l'activité de la femme de Proverbe 31 sont plus amusants ou plus déconcertants. Certains commentateurs veulent accentuer le fait que cette femme travaille en dehors de chez elle. Il représente son activité de vente de ceintures aux marchands comme une industrie textile essentielle et l'achat d'une vigne comme une de ses nombreuses transactions immobilières. Par ailleurs, ceux qui veulent accentuer sa vie de femme d'intérieur minimisent cela en disant « il s'agit juste d'une petite parcelle de son jardin ». Le passage ne nous dit pas quelle quantité de ceintures elle produit, quelle est la taille de sa vigne, ni à quelle distance elle se trouve de sa maison. Nous pouvons dire que l'intention claire du passage est de présenter cette femme comme une gérante domestique. Elle dirige le domaine à multifacettes de sa maison, et ça fonctionne bien. Sa productivité s'écoule au-delà des murs de sa maison dans la communauté, sous la forme d'actes de bienfaisance et d'investissement de capitaux. Elle accomplit ainsi l'idéal du Nouveau Testament, qui est de travailler de ses propres mains afin d'avoir assez pour les siens et assez pour partager avec les autres. Cette gérante domestique, productive et centrée sur son foyer, est un exemple et un idéal. Quand les femmes n'admirent pas et n'imitent pas cet exemple, et quand les hommes ne cherchent pas pour épouse des femmes qui savent gérer leur maison de manière professionnelle, alors la culture est en difficulté. Il existe d'autres modèles de femmes sages. Certaines ne se marient jamais, d'autres n'ont pas d'enfants. La vie d'une femme traverse aussi différentes étapes. Parfois, elle est davantage occupée à dispenser la vie, et à d'autres moments, elle est plus occupée dans le secteur professionnel. Néanmoins, la femme qui gère sa maison de manière productive sera l'idéal féminin prédominant dans une église et une culture en bonne santé. La société est bénie lorsque la majorité des femmes savent gérer leur maison, produire de la bienfaisance et augmentant leurs biens grâce à leurs compétences. Nous devrions admirer la compétence domestique. La cuisine et la couture font rire dans certains cercles. Cela montre l'ignorance de ceux qui gloussent. Ma sœur est procureure et célibataire. À l'âge de 35 ans, elle était résolue à apprendre à coudre. Elle m'a dit « Barbara, je dois connaître les tissus. Si je veux décorer ma maison, si je veux m'habiller correctement, je dois avoir cette compétence. » Elle a trouvé un prof qui était une dame sagesse dans le domaine du textile et a appris avec elle. Remarquez que toute la force de la femme de Proverbe 31 n'empêche pas qu'elle soit joyeuse. Elle parle avec bonté, elle sourit, elle ne s'inquiète pas du futur. Il y a de la douceur en elle. C'est facile de penser que quelqu'un qui travaille avec autant de diligence que cette femme soit comme un sergent instructeur. Mais ce n'est pas le cas. Elle conserve toute la douceur de la vraie féminité parce qu'elle fait tout ce travail par amour comme par excellence. Un peuple sage et pieux ne va pas rire des compétences domestiques ou des gérantes domestiques. Certaines d'entre nous ne se marieront jamais. D'autres ne seront pas des femmes au foyer aisées ou à plein temps. Mais beaucoup le sont et peuvent l'être. Quelle que soit la manière dont nous sommes des gérantes domestiques, et nous le sommes toutes dans une certaine mesure, Proverbe 31 est un encouragement à être diligente et compétente par amour et respect pour Dieu. Ruth nous donne un exemple complètement différent de la femme d'excellence. Ruth est une étrangère, elle n'appartient pas à la classe aisée, c'est une paysanne. C'est une veuve qui glane dans les champs, comme une simple ouvrière au seuil de la pauvreté. Elle n'a pas un mari important, une grande maisonnée ou beaucoup de servantes. Elle se trouve à l'autre extrême de l'échelle sociale de la femme de Proverbe 31. Pourtant, Ruth est un merveilleux exemple d'une femme sage qui bâtit sa maison. Avec et grâce à cette femme pauvre, Dieu a construit la plus grande maison qui ait jamais été construite, la dynastie davidique, la maison dont est issu Christ lui-même. Les proverbes disent « La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Comment Ruth a-t-elle bâti? Comment a-t-elle contribué à une si grande dynastie? Manifestement, Dieu l'a aidée et l'a habilitée. Mais quelle est la part de Ruth? Elle a commencé par bien choisir son Dieu. Elle a choisi le vrai Dieu pour être son Dieu. Elle est allée dans son pays. Elle a trouvé refuge en lui. C'est ce par quoi elle a commencé. Elle a commencé avec le bon Dieu. Puis elle a choisi la bonne famille. Quand elle a commencé, sa famille consistait en une vieille femme amère. Rien de très passionnant. Ruth était prête à commencer avec ce début. Elle était loyale et a pris soin de la famille qu'elle avait, représentée par Naomi. Ensuite, elle était prête à travailler avec diligence selon la loi. Elle a travaillé selon les lois du glanage, qui étaient le moyen dont Dieu pourvoyait à la politique sociale en Israël. Cela signifiait un dur labeur. Elle a accepté la protection du sage conseil de Naomi et celle de Boaz. Enfin, elle a choisi un mari, non pas pour sa jeunesse ou sa richesse, mais pour la bénédiction spirituelle qu'il apporterait à sa famille, celle qui était vivante et celle qui était décédée. Quand Ruth vient trouver Boaz dans l'air, il lui dit « Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. » Que veut-il dire par ces mots ? Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Il veut dire qu'elle a accompli beaucoup de bonnes choses, qui incluent le fait d'être revenue de Moab, de glaner dans les champs et de prendre soin de Naomi. « Mais de toutes tes bontés, dit Boaz, me choisir pour être ton mari, celui avec droit de rachat, est la plus grande de tes bontés. » La plupart des gens déduisent de ce passage que Boaz était bien plus âgé que Ruth. Elle n'a pas choisi un des jeunes hommes pour son charme ou son éclat. Elle a choisi Boaz à cause de son caractère moral et à cause de ce qu'il était par rapport à sa famille. Il pouvait user du droit de rachat. Par cette union, elle pouvait rassembler les morceaux de toute la famille, réétablissant la lignée pour son beau-père décédé, pour son premier mari et pour Naomi. Voici une femme sage qui fait des choix, le choix de son Dieu et de sa maison, le choix de la loyauté et de la diligence, et le choix d'un époux basé sur son caractère. À plusieurs reprises, elle choisit ce qui va glorifier Dieu et édifier les autres. Sa renommée est juste. Qu'opporte ses œuvres la loue est une bénédiction vraiment appropriée pour Ruth et pour des femmes comme elle. En Ruth 3, verset 11, Boaz dit à Ruth qu'elle est connue dans toute la ville comme étant une femme vertueuse. C'est le même mot, Shaïl. 3000 ans plus tard, on fait encore son éloge dans des pays qui étaient encore inconnus quand elle a fait tout cela. Ruth était une femme d'excellence qui a bâti sa maison au lieu de la détruire. Esther n'est ni une maîtresse de maison de la haute société, ni une paysanne étrangère. C'est une reine juive du grand empire païen de Perse. La longueur de l'histoire d'Esther nous permet de la voir dans plusieurs des rôles de la sagesse. Esther, comme la sagesse, invite seulement après avoir fait des préparatifs. En Proverbe 9, la sagesse prépare sa maison et un grand festin. Grâce à ses préparatifs minutieux, elle est en mesure de proposer une nourriture de la meilleure qualité. Esther se comporte d'une manière similaire. Quand elle réalise qu'elle doit aller voir le roi et le supplier en faveur de son peuple, elle ne se précipite pas. Elle jeûne pendant 3 jours et demande aux Juifs de jeûner également. Pendant ce temps, selon toute probabilité, elle prie et réfléchit à la meilleure manière d'aborder le roi. Elle ne doit pas adresser sa pétition de façon inopportune, ce qui pourrait avoir un mauvais résultat pour elle et sa requête. « Non, se dit-elle, je dois l'amener dans mon environnement. Il faut que je prépare un banquet, que je suscite sa curiosité, et alors je lui présenterai ma requête. » Avec ce plan en tête, elle va voir Assuérus et l'invite à son banquet. Les femmes sages sollicitent, adressent des pétitions et influencent les gens habilement. Les pétitionnaires sages réfléchissent aux personnes qu'elles sollicitent et aux meilleures façons de les convaincre. Au premier banquet, elle sent que ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être parce que l'orgueil d'Aman n'est pas encore à son comble.
Elle retarde le moment pour exposer sa requête et invite le roi et Aman à un second banquet le jour suivant.
En Proverbe 3, verset 15, la sagesse personnifiée déclare « Par moi, les princes ordonnent ce qui est juste. » Le grand danger de l'antisémitisme planait sur l'empire médo-perse, un mal que Dieu a juré de maudire. Esther donne sans aucun doute de la sagesse à Assuérus et l'influence lorsqu'elle intercède pour avoir la vie sauve, la sienne et celle de tous les juifs. La sagesse repousse les insensés comme Proverbe chapitre 1 le montre clairement. La sagesse appelle tout le monde, mais quand les insensés ne prennent pas garde à elle, elle les rejette. Elle ne les aide pas quand ils se heurtent à des problèmes. Quand Aman, l'antisémite méchant, se précipite vers la couche d'Esther et commence à plaider pour recevoir son aide, lors du second banquet, Esther ne l'aide pas. Comme la sagesse, elle le repousse. Elle le laisse aller à sa propre destruction. Esther, comme la sagesse, exalte l'homme sage. Mardoché est l'homme sage de ce récit. Dès qu'elle reçoit la maison d'Aman, Esther la donne à Mardoché. La sagesse se détourne des insensés et exalte les personnes sages. Les femmes sages s'efforcent de reconnaître les insensés afin de les éviter et de limiter leur influence. En même temps, les femmes sages se servent de leur position influente pour exalter les personnes sages. C'est ce qu'Esther a fait pour Mardoché, l'homme sage. Esther, comme la sagesse, haït le mal et fait justice. Quand les Juifs ont massacré leurs ennemis pendant toute une journée, Esther retourne voir le roi pour lui demander d'accorder une deuxième journée aux Juifs pour tuer les antisémites. Elle lui demande aussi que les 10 fils d'Aman soient exécutés avec lui. Où est donc la jeune fille douce et respectueuse du début du livre? Qui est cette personne qui veut multiplier les exécutions? La vraie sagesse sait que la paix véritable ne vient que par la justice, la suppression et la destruction du mal. C'est tout aussi valable que votre domaine soit de la taille d'un empire ou d'une salle de séjour. Il n'y aura pas la paix à la maison tant que l'enfant indiscipliné n'est pas corrigé, ni de sérénité dans la communauté tant que les criminels ne sont pas jugés. La paix vient quand la justice est faite et que le mal est détruit. La sagesse qui est la crainte de l'Éternel haït le mal. Esther réalise que les antisémites de l'Empire perse ont été touchés, mais pas exterminés. Livrés à eux-mêmes, ils réapparaîtront pour causer des problèmes avec l'équivalent perse des pogroms et des persécutions raciales. Alors, elle retourne voir le roi et demande, en fait, si le cancer peut être totalement enlevé. Le roi consent à sa requête et cela apporte une grande paix et le salut dans l'Empire. Si on avait extirpé le cœur du nazisme en Allemagne dans les années 30, combien de vies auraient pu être sauvées ? Esther, comme la sagesse, protège son peuple. Esther comble son peuple de bienfaits. À ce jour, les Juifs se réjouissent toujours lors de la fête du Pourim qu'elle a mise en place il y a 25 siècles. Esther est une incarnation complète de l'archétype de la sagesse et de ses rôles. Elle fait des préparatifs avant d'inviter et de présenter une requête. Elle conseille le roi, rejette l'insensé, exalte l'homme sage, apporte la paix par la justice et lègue un héritage riche et pieux à son peuple. En 2 Samuel 20, nous trouvons une autre dame sagesse qui hait le mal et
Joab,
neveu du roi David et commandant militaire meurtrier, emmène son armée vers le nord pour chasser et exécuter une rebelle nommée Sheba, trouve refuge dans la ville fortifiée d'Abel Beth-Maaca. Au début de l'histoire, Joab fait le siège de toute la ville alors que seul un rebelle s'y trouve. Voici ce qui est écrit dans 2 Samuel 20, au verset 15 à 22. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel Beth-Maaca, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile se mit à crier de la ville. « Écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab. Approche jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle et la femme dit « Es-tu Joab ?» Il répondit « Je le suis. » Et elle lui dit « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit « J'écoute. » Et elle dit « Autrefois, on avait coutume de dire « Que l'on consulte Abel. » Et tout se terminait ainsi. En d'autres termes, cette ville est réputée pour ses diplomates et ses arbitres. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël? Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Joab répondit. Loin, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Voilà qui est plutôt ironique au regard de la nature destructive de Joab.
Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, « Voici, sa tête te sera jetée par la muraille. » Et la femme alla vers tout le monde avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, on se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Le problème dans cette histoire est celui d'un rebelle qui doit être jugé. Joab est sur le point de détruire toute une ville d'un même coup. Mais une femme sage intervient. Elle le sollicite dans une attitude de soumission et se renseigne sur ce rebelle. Au moment critique, elle fait ses preuves. Elle est prête à voir la justice accomplie. Elle ne dit pas « Oh Joab, il ne s'agit que d'un seul homme, ne peux-tu donc pas lui pardonner ?» Ou bien « Faisons une conférence de paix. » Elle n'essaye pas de le traiter de cette façon. Elle lui dit « Je veillerai à ce qu'il soit exécuté. Un point c'est tout. » Les femmes sages peuvent souvent aider les hommes à converger vers des décisions plus efficaces et plus justes dans la famille et la société. Mais ces femmes doivent être prêtes à connaître la véritable nature des problèmes et ne pas reculer devant les solutions véritables. Réfléchissez à l'exemple d'une famille. La famille est une société miniature où le mari est père et le roi. La mère est épouse et sa reine est une dame de sagesse. Les enfants sont les sujets, pour la plupart des petits insensés. Bien souvent, le père voit un problème. Il arrive avec le glaive de la justice pour le résoudre. Peut-être que son approche disciplinaire est trop générale et pas assez spécifique. Une épouse et mère qui agit comme la sagesse peut aller voir le roi, mari et père et découvrir comment il voit les choses, le soutenir lui et ses légitimes inquiétudes et faire des suggestions sur la manière d'appliquer une justice juste. Ainsi, on traite le mal de la façon la plus efficace et avec le moins de dommages supplémentaires. Nous pouvons et devrions voir cette dynamique tout le temps, mais cela dépend de la femme qui doit montrer respect et sagesse. Certains diront peut-être « Ceci ne s'applique pas à moi parce que mon mari » ou mon patron, est trop méchant et insensé. Si Esther ou la femme d'Abel avaient suivi ce raisonnement, le royaume et la ville auraient été perdus tous les deux, car Assuérus et Joab étaient tous deux méchants et insensés. Souvent, une femme offensée par les excès d'un homme se positionne en antagoniste par rapport à lui. On n'y gagne rien, si ce n'est que chacun se durcit dans sa position. Il en résulte souvent de la dureté chez l'homme et du laisser-faire chez la femme. Dieu veut au contraire que les deux soient motivés par une véritable justice et la miséricorde. Une femme qui n'exerce pas la justice est tout aussi mauvaise qu'un homme qui n'exerce pas la miséricorde. Heureusement pour nous tous, Esther et la femme d'Abel ont intercédé pour la miséricorde, alors même qu'elles travaillaient à la justice.